l'étude de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin dans la partie qui traite de notre Seigneur Jésus-Christ. La première conférence avait plutôt trait à la Très Sainte Vierge et la seconde à la conception du Christ. Alors maintenant, la question suivante, c'est la question 35, va porter sur la naissance du Christ. Ensuite, la question 36, la manifestation de l'enfant Dieu. Après sa naissance, sa manifestation au monde. Ensuite, la question suivante, la circoncision. Et enfin, le baptême, avec le baptême de Saint Jean-Baptiste. Et ensuite, le baptême du Christ. Mais ça fait beaucoup d'articles à voir, donc je ne sais pas si on pourra tout voir ce soir. On va au moins voir, je l'espère, la nativité et puis la manifestation de l'enfant Dieu. Donc on va déjà étudier deux questions, ce qui représente déjà 16 articles. Alors, dans la première question, la partie qui concerne la naissance du Christ, cette question se subdivise en 8 articles. Les 4 premiers seront un petit peu difficiles. Donc on commence par le plus difficile parce que on peut supposer que vous êtes au moins attentif au départ. Cependant, ne partez pas après le 4e article, parce qu'ensuite, ce sera plus facile. Ce serait quand même dommage. Alors, au début, c'est un petit peu ardu, parce que c'est la question de la nature et de la personne de notre Seigneur. Le mystère de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il y a une seule personne, la personne du Fils de Dieu qui s'est incarné. Et cette personne revêt deux natures, la nature divine et la nature humaine. Alors, la question que pose d'abord saint Thomas dans le premier article, est-ce que la naissance, d'une façon générale, d'un être, se dit de la nature ou de la personne? Donc, question philosophique. Alors, chez les êtres humains, en général, la question ne se pose pas, puisque la nature et la personne coïncident. La naissance d'un bébé n'est autre que la naissance d'une personne qui a la nature humaine. La personne regarde l'individu, et la nature regarde le genre, regarde l'espèce de cette personne. Un être humain, c'est une personne individuelle qui est dotée de la nature humaine. Donc le concept de nature est un concept qui regarde l'espèce, le concept de personne est un concept qui regarde l'individu. Mais en notre Seigneur, il y a une double nature dans une seule personne. Il n'y a qu'une seule personne en notre Seigneur, la personne du Fils de Dieu, qui a de toute éternité la nature divine et qui, dans le temps, a assumé la nature humaine. Donc la question est de savoir si la naissance regarde plutôt la personne de notre Seigneur ou bien sa nature humaine. Et la réponse de saint Thomas est que la naissance regarde la personne plutôt que la nature, parce que c'est une personne qui naît et non pas la nature proprement dit. Donc si l'on regarde le sujet qui naît, on doit dire que la naissance regarde la personne. Donc, on devra dire que la personne divine, qui est le Verbe de Dieu, qui existe de toute éternité, s'est rendue visible en naissant dans le temps, dans le sein de la Vierge Marie. Mais si maintenant on regarde le terme de la naissance, c'est-à-dire la nature spécifique de l'être qui naît, alors bien sûr que la naissance pourra être appliquée à la nature. Et c'est ainsi qu'on pourra préciser que la personne qui vient de naître est un être humain. Donc, en appliquant ce principe à notre Seigneur, on dira que la nature humaine de notre Seigneur est issue de la Vierge Marie. C'est un petit peu abstrait, mais je voulais quand même vous le dire, puisque saint Thomas le dit, et pour que vous puissiez ensuite suivre tout le fil du raisonnement, puisqu'il y a toujours un lien logique entre les différents articles. Donc, deuxième article, après avoir montré donc que la naissance vu sous un certain angle, regarde plutôt la nature, sous un autre angle, regarde plutôt la personne. Il pose ensuite une deuxième question, doit-on attribuer au Christ une naissance temporelle? Alors il dit, par suite de ce que nous venons de dire, qu'il y a dans le Christ deux natures, l'une divine qu'il reçoit éternellement de son Père, l'autre humaine qu'il tient de sa mère dans le temps, il faut lui attribuer deux naissances, l'une éternelle, par laquelle il procède éternellement du Père, l'autre temporelle qui lui vient de sa mère. Donc le Christ a bien eu une naissance temporelle. Cette naissance temporelle qui vient de sa mère, donc qui vient de la Très Sainte Vierge. Alors question suivante, la naissance temporelle du Christ autorise-t-elle à dire que la Bienheureuse Vierge est sa mère? S'il a eu une naissance temporelle par sa mère, est-ce que on peut dire que la Bienheureuse Vierge est vraiment sa mère? Argument d'autorité, l'Évangile le dit formellement. Telle était la généalogie du Christ, Marie, sa mère, ayant épousé Joseph. Saint Matthieu, chapitre 1, verset 17. Marie, sa mère. Donc, dans la mesure où l'Évangile nomme Marie, sa mère, c'est que la Sainte Vierge était bien la mère de notre Seigneur. Alors maintenant, l'argument de raison. Le corps du Christ a été pris dans le sein de la Vierge Marie, est formé de son sang très pur. Il n'en faut pas davantage pour constituer l'essence de la maternité. La Bienheureuse Vierge est donc véritablement la mère du Christ. La Sainte Vierge est mère de notre Seigneur parce que le corps de notre Seigneur a été formé par le sang de Notre-Dame. Alors ensuite, dans les objections, il va préciser que dans la naissance de notre Seigneur, il y a un côté miraculeux et un côté qui ne l'est pas. Le côté miraculeux vient que l'absence d'homme a été suppléée par le Saint-Esprit, et le côté naturel vient que le rôle de la femme a été rempli par la Très Sainte Vierge. L'opération du Saint-Esprit imprima un caractère surnaturel et miraculeux à la conception et à la naissance du Sauveur, mais du côté de la mère dont il est né, au temps ordinaire depuis sa conception, sa naissance fut conforme à la nature. Voilà pourquoi la Bienheureuse Vierge est réellement sa mère. Elle est réellement sa mère, parce que du côté de la maternité, elle a bien rempli son rôle de mère depuis la conception jusqu'à la naissance. Donc, vous voyez l'évolution dans ces trois articles. On montre que la naissance peut se dire de la nature. Ensuite, on va attribuer au Christ une naissance temporelle. Cette naissance temporelle laisse à penser, donc, ou même conclut, à la maternité de la Très Sainte Vierge. Alors maintenant, la question reste à savoir si cette maternité, la Sainte Vierge, peut être appelée, oui ou non, une maternité divine, ou simplement humaine. La Bienheureuse Vierge doit-elle être appelée la Mère de Dieu? Alors ici, l'argument d'autorité, c'est l'argument de Saint Cyrille, qui au Concile d'Éphèse a défini cette maternité divine. Si quelqu'un ne confessant pas que l'Emmanuel est véritablement Dieu, nie que la Sainte Vierge est la Mère de Dieu, qu'il soit anathème. Donc le Concile d'Éphèse, en 431, a défini la maternité divine de la Très Sainte Vierge. Alors maintenant, le développement un petit peu dans l'ordre théologique. On l'a vu, la personne de notre Seigneur est une personne divine. C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Cette personne est dotée de deux natures, la nature divine et la nature humaine. Or, notre Seigneur a reçu sa nature humaine de la Sainte Vierge, Marie, et par conséquent sa mère. Donc, la Sainte Vierge est bien la mère de cette personne à laquelle elle a donné la nature humaine. Elle est donc la mère de Dieu. Parce qu'encore une fois, la maternité, par sa maternité, elle a donné naissance non seulement à une nature, mais à une personne. Cette personne, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, et la personne est une personne divine. Tout nom qui désigne au concret une nature peut s'attribuer à la personne qui possède cette nature. Ainsi, tout ce qui convient à la nature humaine de notre Seigneur peut être attribué à sa personne. Puisque dès sa conception, la nature humaine de notre Seigneur a été assumée par la personne divine. Donc, la mère de sa nature humaine peut être appelée la mère de cette personne qu'il est, à savoir la mère de Dieu. Alors, les objections étaient les suivantes. Première objection, on ne lit nulle part dans la Sainte Écriture que la Sainte Vierge est mère de Dieu. On la désigne par exemple sous le nom de mère du Christ ou mère de l'enfant Jésus en Saint Matthieu. Donc on ne doit pas dire que la Sainte Vierge est mère de Dieu. Réponse, Saint Jean dit dans son épître que Jésus-Christ est vrai Dieu. Première épître de Saint Jean, dernier chapitre, verset 20. Et Saint Matthieu dit que la Sainte Vierge est mère de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est vrai Dieu et que la Sainte Vierge est mère de Jésus-Christ, la Sainte Vierge est mère de Dieu. Donc, il résulte des paroles mêmes de l'Évangile que la Vierge est mère de Dieu. Deuxième objection, le Christ est Dieu par sa nature divine. Or, la nature divine n'a pas commencé d'exister par la Sainte Vierge. Donc, on ne doit pas dire que la Vierge est mère de Dieu. Et la réponse ici est très intéressante, parce qu'elle est très claire. La mère d'un homme est celle qui lui a donné son corps, mais l'âme humaine vient de Dieu. Notre âme, l'âme de chaque être humain, vient de Dieu. L'âme est simple et elle vient de Dieu. Elle ne peut pas venir des parents, puisque en ce moment-là, elle devrait se diviser. Donc, notre âme vient de Dieu. Pourtant, on ne dit pas qu'une mère donc, humaine, qu'elle est la mère du corps de son enfant, mais qu'elle est la mère de cet enfant tout entier, corps et âme. Donc, de la même manière, dans la mesure où la Sainte Vierge a fourni la matière dont a été formé et nourri le corps de son enfant, elle doit être appelée la mère de cet enfant. Le fait que le corps de cet enfant soit assumé par une personne divine ne change rien à son rôle de mère. Donc si on l'appelle mère de Dieu, ce n'est pas parce qu'elle serait la mère de la divinité, mais parce qu'elle est la mère, selon la nature humaine, de la personne qui possède la divinité et l'humanité. C'est bon ? Ça va ? Ça chauffe ? Vous voyez, on a presque besoin de chauffage dans une pièce comme ça, quand on fait de la philosophie et de la théologie. Objection 3. Si la Sainte Vierge était mère de Dieu, le nom de Dieu étant un attribut commun au Père, au Fils et au Saint-Esprit, elle serait mère du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce qui est impossible. Donc la Sainte Vierge ne peut être appelée mère de Dieu. Réponse. Sans doute, le nom de Dieu est un attribut commun aux trois personnes divines. Néanmoins, il sert à désigner tantôt la seule personne du Père, tantôt la seule personne du Fils ou celle du Saint-Esprit. Donc, lorsque l'on dit « la Sainte Vierge est mère de Dieu », le nom de Dieu désigne la seule personne du Fils incarné. Donc là, je pense que les réponses des objections sont claires et permettent d'avancer maintenant un petit peu plus loin. Ceci étant, avant de passer donc aux articles suivants, qui, comme je vous l'ai promis, sont plus faciles à saisir, Je vais vous faire le résumé de ce que dit saint Thomas, qui est donné par le père Sineux dans son initiation à la théologie de saint Thomas. On voit ordinairement dans la naissance le commencement de l'existence personnelle d'un être humain. En réalité, bien qu'avant sa naissance, la vie de l'enfant soit liée à celle de sa mère, c'est dès sa conception qu'il a valeur de personne humaine. On peut parler de personne humaine dès l'instant de la conception. Pour le Christ, ce n'est ni à la naissance ni à la conception qu'il est devenu une personne, mais éternellement dans le sein du Père. Cette naissance dans le temps ne fait que rendre visible, sous des traits humains, une personne divine existant déjà de toute éternité. La personne divine ne se dédouble pas pour autant. Il n'y a pas une partie de la personne divine qui serait restée au ciel et une autre partie qui serait venue sur la terre. C'est bien l'unique et identique personne du Verbe qui anime ce corps. Elle prend le nom de Jésus-Christ à partir de ce moment. Mais la personne est une après comme avant. Or, la Vierge Marie, qui a fourni son propre sang pour la formation de ce corps, est vraiment mère. Devrait-on dire qu'elle n'est mère que du corps du Christ ? Mais ce corps ne serait pas vivant, il n'existerait même pas s'il n'était pas animé par la personne du Fils de Dieu. Une mère, quelle qu'elle soit, est dite mère de son enfant tout entier, tel qu'il est, sans restriction. Et cependant, elle ne lui a pas donné son âme raisonnable. Mais il a suffi qu'elle lui donne son corps, sans lequel son âme n'eût pas été créée. Marie aussi n'a donné que la matière dont a été formé et nourri le corps de son enfant. Que ce corps, au lieu d'être pourvu simplement d'une âme raisonnable comme tous les autres, soit en outre assumé par une personne divine, cela ne change rien à son rôle de mère. Et il n'empêche que, faute de sa maternité, le Verbe de Dieu n'aurait pas de nature humaine. Il n'existerait donc pas comme Christ. Incontestablement, par conséquent, et sans réserve, la Vierge Marie doit être proclamée mère de Jésus-Christ. Et maintenant, si l'on interroge « Qui est Jésus-Christ ?», on ne peut que répondre « Il est Fils de Dieu, en tout égal au Père ». On peut distinguer la diversité de ses actions, les aspects de sa vie, les opérations de sa double nature. Impossible de diviser sa personnalité. C'est toujours lui-même qui apparaît et agit. Mais puisque ce personnage qui est fils de Dieu, et Dieu comme son Père, est aussi fils de Marie, la conclusion s'impose. La Vierge Marie est mère de Dieu. Quant à Jésus-Christ, il est né de Dieu le Père dans l'éternité, autant que l'on peut appeler naissance cette génération éternelle du Verbe, et de Marie sa mère dans le temps. Il est donc à la fois fils de Dieu et fils de Marie, bien qu'à des titres divers. Donc je pense que ce texte-là résume bien la position de l'Église et éclaire un petit peu ces deux concepts de nature et de personne pour mieux réaliser la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait petit enfant dans le sein de la très sainte Vierge. Alors maintenant, donc, d'autres questions plus simples. La première regarde celle de l'enfantement de notre Seigneur qui s'est fait sans douleur. Le Christ sortit du sein maternel, dit saint Thomas d'Aquin, de la même façon que plus tard, il entra dans le cénacle, les portes étant fermées. Marie l'enfanta sans douleur comme sans préjudice pour sa virginité, éprouvant au contraire une joie immense de ce qu'un homme Dieu était donné au monde. Elle vérifia cette parole d'Isaïe: elle germera comme un lys et laissera éclater sa joie par des hymnes d'allégresse. Et maintenant deux autres questions qui sont intéressantes, qui regardent le lieu et le temps de la naissance du Christ. Était-il convenable que notre Seigneur naquît à Bethléem? Donc, pourquoi a-t-il préféré naître à Bethléem qu'ailleurs? Et pourquoi est-il né donc autant marqué, et non pas avant ou après? Donc tout d'abord, la question de la naissance à Bethléem. Il a voulu naître à Bethléem pour plusieurs raisons. Le prophète Michée avait annoncé en ces termes que ce serait là le lieu de sa naissance. Là aussi, c'est très important toujours de bien se rendre compte que notre Seigneur a réalisé point par point toutes les prophéties qu'il annonçait. Et toutes ces prophéties annonçaient jusque dans les moindres détails toutes les circonstances de sa vie. Et entre autres, le lieu même de sa naissance était donc annoncé par le prophète Michée. Le prophète Michée avait annoncé en ces termes que ce serait là le lieu de sa naissance. « Et toi, Bethléem, tu es la plus petite des villes de Juda, mais c'est de toi, néanmoins, que je ferai sortir celui qui doit régner en Israël. » Chapitre 5, verset 2. Ensuite, il a voulu naître à Bethléem, cette ville qui était la ville du roi David, parce que justement, il descendait de David et il voulait que par le lieu de sa naissance, il montrât que l'accomplissement des promesses qui avaient été faites au roi David venait se réaliser. Et c'est ce que l'Évangile nous indique en disant qu'il était de la maison et de la famille de David. Et enfin, comme l'explique Saint Grégoire, Bethléem veut dire la maison du pain. Donc, du point de vue étymologique. Or, le Christ disait en parlant de lui-même, « Je suis le pain vivant qui suis descendu du ciel. » Donc, le nom même de Bethléem symbolisait un petit peu la mission de notre Seigneur et son être même. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir un peu les objections. Première objection, cette ville n'a-t-elle pas été mal choisie? La loi sortira de Sion, dit Isaïe, et la parole du Seigneur de Jérusalem. Sion et Jérusalem sont deux noms synonymes, ils désignent la même ville. Donc il y avait une prophétie qui annonçait que la loi sortirait de Sion et la parole du Seigneur de Jérusalem, donc notre Seigneur, apparemment donc, aurait dû naître à Jérusalem. En effet, le Christ est vraiment la parole du Seigneur puisqu'il est le Verbe de Dieu. Le terme de verbe de Dieu signifie parole de Dieu. Il aurait donc dû venir au monde à Jérusalem. Réponse. C'est à Bethléem qu'est né David, mais il a choisi Jérusalem pour y établir le siège de sa royauté, y édifier le temple de Dieu et faire ainsi de Jérusalem une ville à la fois royale et sacerdotale. Donc, David est né à Bethléem, et puis ensuite, donc, il a fait de Jérusalem une ville royale et sacerdotale. Or, le sacerdoce du Christ et sa royauté ont surtout trouvé leur achèvement dans sa passion. Si le Christ a manifesté qu'il était prêtre, c'était en offrant le sacrifice de sa propre vie par amour pour nous. Aussi, est-ce avec raison que le Christ a choisi Bethléem comme lieu de sa naissance et Jérusalem comme lieu de sa passion? En outre, le Christ n'a-t-il pas confondu par là la vaine gloire des hommes qui s'enorgueillissent de naître dans des villes réputées et y rechercher les honneurs? Tel est le contraste. Le Christ a voulu naître dans une ville sans gloire et souffrir l'opprobre dans une ville illustre. Ensuite, deuxième objection. Du moins, eût-il été préférable que le Christ naquît à Nazareth, là où il avait été conçu et où il avait été élevé. On lit dans Saint Matthieu qu'il était écrit du Christ, on l'appellera Nazaréen, car suivant Isaïe, une fleur montera de sa tige. Nazareth, en effet, veut dire fleur. Or, n'est-ce point surtout de son lieu de naissance que l'on prend son nom? Réponse, que fait saint Thomas? C'est parce que le Christ entendait être une fleur de vie vertueuse, sans égard pour son origine charnelle, qu'il a voulu être élevé et nourri dans la ville de Nazareth, dont le nom signifie « fleur ». Mais son intention fut de naître à Bethléem comme un étranger. En voici le motif mystique d'après saint Grégoire. Par l'humanité qu'il avait prise, il naissait comme chez autrui. Il en empruntait la nature, mais non la puissance. D'après saint Bède, s'il ne trouve point de place dans l'hôtellerie, c'est pour nous préparer des demeures nombreuses dans la maison de son père. Vous voyez qu'il y a encore des symbolismes intéressants. Et enfin, troisième objection. Puisque le Seigneur est né en ce monde pour annoncer la foi de la vérité, comme il le dit lui-même dans saint Jean, « Je suis né et je suis venu dans ce monde afin de rendre témoignage à la vérité », combien cette mission lui aurait été rendue plus facile s'il était né dans la ville de Rome. Rome détenait alors le monde sous sa domination. C'est ce qui faisait dire à saint Paul, écrivant aux Romains, « Votre foi est annoncée à tout l'univers ». On ne voit donc pas pourquoi le Christ est né à Bethléem. Donc, pour que l'impact de notre Seigneur soit plus grand, il aurait dû naître à Rome. C'est ce que dit l'objection. Un sermon du Concile d'Éphèse nous dit pourquoi le Christ n'a pas voulu naître à Rome. S'il avait choisi l'illustre ville de Rome, on aurait attribué la conversion de l'univers à la puissance de ses citoyens. S'il avait été fils de César, on aurait assigné son succès à son pouvoir. Mais afin que l'on reconnût que c'était sa divinité qui avait transformé le monde, il choisit une mère toute pauvre et une patrie plus pauvre encore. Comme le dit saint Paul aux Corinthiens, Dieu choisit ce qui est faible ici-bas pour confondre ce qui est fort. Afin de montrer davantage son pouvoir, c'est dans Rome même, qui était la tête de l'univers, qu'il a établi la tête de son Église, en signe de parfaite victoire. De là, la foi devait se répandre dans le monde entier. Voilà, donc, des considérations, je pense, qui sont très belles, qui montrent toujours l'humilité de notre Seigneur, qui a voulu naître dans une petite ville perdue, pour en même temps mieux faire éclater sa divinité. Ensuite, le Christ est-il né au temps convenable? Il est écrit, quand la plénitude du temps fut venue, Dieu envoya son Fils formé d'une femme et soumis à la loi. Galates chapitre 4, verset 4. Quand la plénitude du temps fut venue. Donc, puisque la Sainte Écriture le dit, c'est que c'était le temps le plus convenable. Après, saint Thomas ajoute, c'était bien le temps le plus convenable, puisque toutes les œuvres de Dieu sont parfaitement ordonnées. Mais là encore, il y a des objections qu'on peut poser. Tout d'abord, première objection, le Christ n'était-il pas venu pour restituer aux siens la liberté? Or, il est né au temps de la servitude, au moment où le monde entier, devenu comme tributaire, était dénombré par ordre d'Auguste, ainsi que le raconte saint Luc. C'était l'époque du dénombrement. Ils étaient tous sous la servitude de ce dénombrement. Donc, apparemment, ce n'était pas forcément le meilleur moment. Et la réponse que fait saint Thomas, il est exact que le Christ est venu pour nous racheter à notre état de servitude et nous rendre la liberté. Tout est symbolique. Le Christ a pris notre mortalité afin de nous ramener à la vie. Pareillement, comme le dit saint Bède, il a daigné s'incarner au moment où, à peine né, il serait saisi par le recensement de César et pour notre libération tomberait lui-même sous la servitude. D'ailleurs, à cette époque où tout l'univers vivait sous un seul prince, régnait pleinement la paix. Il convenait donc que ce temps vit naître le Christ. N'est-il pas notre paix qui de deux peuples n'en a fait qu'un, ainsi qu'on le lit dans l'Épître aux Éphésiens. C'est ce qui fait dire à saint Jérôme, « Déroulons l'histoire ancienne, nous y trouverons que la discorde a régné dans le monde entier, jusqu'à la 28e année de César Auguste. Mais à la naissance du Seigneur, toutes les guerres cessèrent. Selon cette prédiction d'Isaïe, aucun peuple ne lèvera son glaive contre un autre peuple. » Ensuite, autre objection. Ce n'était pas aux gentils qu'avaient été faites les promesses au sujet de la naissance du Christ. Saint Paul le déclare aux Romains. Les promesses appartenaient aux Israélites. Pourquoi dès lors le Christ est-il né au temps où dominait en Judée un roi étranger, c'est-à-dire d'après saint Matthieu, au jour du roi Hérode? Le Seigneur aurait dû naître à un moment où la Palestine, la Judée, était dirigée par un roi juif et non pas par un roi étranger. Réponse. Si le Christ a voulu naître au temps où un roi étranger commandait en Judée, c'était tout d'abord pour accomplir la prophétie de Jacob que rapporte la Genèse. Le sceptre ne sera pas enlevé de Juda, ni le chef de sa race, jusqu'à ce que vienne celui qui doit être envoyé. Donc là encore, vous voyez, la période de la naissance du Christ avait déjà été annoncée du temps de Jacob par cette prophétie. Le sceptre ne sera pas enlevé de Juda, donc du royaume de Juda, ni le chef de sa race, jusqu'à ce que vienne celui qui doit être envoyé. Dans la mesure où c'était maintenant un roi étranger qui gouvernait, c'était le signe que la venue du Messie était arrivée. C'est pour ça que les Juifs n'avaient aucune excuse de ne pas reconnaître notre Seigneur. Parce que le lieu, ils le connaissaient, Bethléem, le temps, ils le connaissaient à travers cette prophétie, et ils le connaissaient également à travers la prophétie de Daniel, la prophétie des 70 semaines d'années, des 490 ans. Et c'est à peu près 490 ans, donc après la venue du prophète Daniel, en effet, que notre Seigneur est né. Donc que ce soit les circonstances de temps et de lieu, elles étaient bien connues des Juifs. Par ailleurs, autre argument intéressant, tant que la nation juive, nous dit saint Jean Chrysostome, fut régie par des rois juifs, même pécheurs, des prophètes lui furent envoyés pour leur porter remède. Mais lorsque la loi de Dieu fut sous le pouvoir d'un roi inique, le Christ naquit, car un mal souverain et implacable appelait un médecin d'autant plus habile. Et enfin, dernière objection. Le jour même de sa naissance a été mal choisi. Le Christ n'est-il pas la lumière du monde? Sa présence dans le monde est comparée au jour. Aussi, dit-il de sa personne dans saint Jean, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé tandis qu'il fait jour. Or, en été, les jours sont plus longs qu'en hiver. Le symbolisme exigeait que le Christ ne naquit pas au plus profond de l'hiver, au 25 décembre. Réponse. Ce fut quand la lumière du jour commence à croître que le Christ a voulu naître, dit l'auteur des questions sur l'Ancien et le Nouveau Testament. N'était-ce point afin de montrer que lui-même venait pour faire croître les hommes dans la lumière divine, selon les mots de saint Luc, il illuminera tous ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Et en même temps aussi, le Christ a choisi pour naître les rigueurs de l'hiver, afin de souffrir pour nous, dès ce moment, l'affliction de la chair. Donc vous voyez, là, c'est toutes les circonstances de temps et de lieu concernant la naissance de notre Seigneur. Maintenant, la question suivante va porter sur la manifestation de cette naissance. Est-ce qu'il convenait que notre Seigneur manifeste sa naissance à tous les hommes? Ensuite, à qui est-ce que notre Seigneur devait se manifester en particulier. Donc, ce sont ces différentes questions qui vont être posées. Et ensuite, de quelle manière aussi devait-il se faire reconnaître? Et dans quel ordre? Tout d'abord, la naissance du Christ a-t-elle dû être manifestée à tous les hommes? L'argument d'autorité tiré du prophète Isaïe. Le prophète Isaïe disait « Vous êtes vraiment un Dieu caché, Saint d'Israël, notre Sauveur. » Isaïe, chapitre 45, verset 15. Et encore, son visage nous a été caché, il était comme un objet de mépris. Chapitre 53, verset 3. Donc là, le but c'est de montrer qu'il ne convenait pas que notre Seigneur se manifesta tout de suite, au moins, à tous les hommes. Parce que notre Dieu est un Dieu caché. C'est l'argument d'autorité. Alors maintenant, l'argument de convenance. Premier argument, notre Seigneur avait prévu de mourir pour nous sur la croix. Si notre Seigneur est venu sur la terre, c'était dans le but de nous sauver et voulait nous sauver en mourant pour nous sur la croix. Or, dit saint Thomas, cette mort ignominieuse n'aurait pu avoir lieu si les Juifs avaient su que notre Seigneur était vraiment le Messie. En effet, saint Paul dit aux Corinthiens, « Si les Juifs avaient connu le Seigneur de gloire, ils ne l'auraient point crucifié. » Si les Juifs, Corinthiens chapitre 2, verset 8. Donc, notre Seigneur devait apparaître de façon cachée pour que puisse s'accomplir le mystère de la rédemption. Et ensuite, il donne encore deux autres arguments. La foi porte sur ce que l'on ne voit pas. Si le Christ avait montré à tous de façon évidente sa divinité, il n'y aurait donc plus eu le mérite de la foi. Si on, le jour on verra, il n'y aura plus la foi, ce sera la vision. Et la vision, elle est pour le ciel. Donc notre Seigneur ne devait pas se manifester de façon évidente. Il devait se manifester de façon suffisante pour qu'on puisse croire en lui, mais pas de façon évidente pour que nous puissions conserver ce mérite de la foi. Et enfin, troisième raison pour laquelle notre Seigneur n'a pas voulu au départ se manifester à tous les hommes, tant de miracles nécessaires pour manifester à tous la divinité de notre Seigneur auraient fini par faire éclater sa divinité au point que l'on se fût demandé si on avait vraiment affaire à la naissance d'un véritable enfant semblable par son humanité aux autres nouveau-nés. Donc l'éclat de la divinité aurait pu porter ombrage à l'humanité de notre Seigneur. Et c'était très important que l'on puisse reconnaître en lui et le vrai Dieu et le vrai homme. Et par conséquent, c'est pour cela qu'au départ, il a voulu mettre en évidence son humanité en apparaissant d'une façon semblable aux autres hommes. Et ce n'est qu'à partir de l'âge de 30 ans qu'il a accompli ses premiers miracles pour accomplir ensuite son ministère durant les trois dernières années de sa vie. Mais auparavant, il voulait montrer à tous qu'il était véritablement homme. Et par contre, c'est vrai que son deuxième avènement, donc le dernier avènement qui aura lieu à la fin des temps, là sera manifeste pour tous. Le second avènement du Sauveur sera manifeste pour tous. Le premier qui opère le salut par la foi a dû être humble et caché jusqu'au jour où il dit à ses disciples « Allez enseigner toutes les nations ». Alors maintenant, après avoir montré qu'il ne convenait pas que notre Seigneur manifestât tout de suite à tout le monde, au monde entier, donc sa naissance, est-ce que cette naissance devait être manifestée à quelques-uns? Saint Thomas répond, « Tel est l'ordre établi par la divine sagesse que les dons et les secrets divins n'arrivent pas de la même manière à tous les hommes. Ils parviennent immédiatement à quelques-uns qui les transmettent ensuite aux autres. » Et ça, c'est tout à fait le plan de Dieu. On voit par exemple que même au niveau des anges, Ce sont les anges supérieurs qui éclairent les anges inférieurs. Les anges inférieurs ne reçoivent pas leur lumière directement de Dieu. Ils les reçoivent par l'intermédiaire des anges supérieurs. C'est pour ça que le bon Dieu aussi a voulu que les lumières soient données aux fidèles par les prêtres, qui sont intermédiaires entre Dieu et les hommes. Et on le voit également pour le mystère de la résurrection, où notre Seigneur a voulu qu'il y ait quelques personnes qui soient témoins de cette résurrection, qui le transmettent ensuite aux autres. Ainsi en a-t-il été de la naissance du Christ. Elle a dû être manifestée à quelques-uns qui puissent ensuite en transmettre la connaissance au monde. Et ensuite, donc, il précise, s'il eût été préjudiciable au salut des hommes que le Christ manifestât sa naissance dès le principe aux yeux de tous, il ne l'aurait pas été moins qu'il ne lui eût fait connaître à personne. Dans l'un et l'autre cas, la foi aurait été impossible. Dans le premier, parce que la vérité aurait été évidente, dans le second, parce que personne n'aurait pu la tester à d'autres. Marie et Joseph, à qui il appartenait de lui rendre, soit avant, soit après sa naissance, les devoirs qui lui étaient dus, furent les premiers instruits. Mais comme leur témoignage, renfermé dans les limites de la famille, eût pu paraître suspect, il fallait que ce mystère fût révélé à des étrangers, dont le témoignage n'exciterait aucune défiance. C'est la raison pour laquelle ensuite il s'est manifesté à d'autres. Alors ensuite, il a quand même une objection là, à nouveau, au sujet de cette manifestation de notre Seigneur. Il n'est pas sage de manifester ce qui provoque du trouble et cause du tort au prochain. Or, la révélation de la nativité du Christ a provoqué du trouble. En apprenant la naissance du Christ, le roi Hérode, dit saint Matthieu, fut troublé et avec lui tout Jérusalem. Et là, les réponses sont aussi très intéressantes. Le trouble lui-même qui a suivi cette manifestation s'harmonise avec la naissance du Christ. D'abord, en effet, la dignité céleste du Christ s'y révèle. Aussitôt la naissance du roi du ciel, écrit saint Grégoire, le roi de la terre se trouble. C'est qu'en effet la grandeur humaine est confondue quand se découvre l'éminence céleste. En second lieu, on y voit la figure du pouvoir judiciaire du Christ. C'est ce qui fait dire à saint Augustin, dans un sermon sur l'Épiphanie, « Que sera le tribunal du juge si déjà la crèche d'un enfant a terrorisé les rois orgueilleux ?» Enfin, la destruction du règne du démon s'y trouve symbolisée. Car, ainsi que s'exprime le pape saint Léon dans un sermon sur l'Épiphanie, Hérode n'est pas tant troublé en lui-même que le démon en Hérode. Là où Hérode soupçonnait un homme, le démon devinait un dieu. Mais l'un et l'autre craignaient pour l'avenir de leur royaume. Le démon redoutait un successeur céleste et Hérode un successeur terrestre. Vaine crainte pourtant, car le Christ n'était pas venu pour posséder sur terre un royaume terrestre, comme le dit le pape saint Léon, en s'adressant à Hérode. Ta royauté n'attire pas le Christ, et le maître du monde ne se contente pas de la faiblesse de la puissance de ton sceptre. Que les Juifs se troublent, alors qu'ils auraient dû plutôt se réjouir, cela vient, ou bien selon saint Jean Chrysostome, de ce que des gens iniques ne pouvaient se féliciter de l'avènement du juste, ou bien de ce qu'ils voulaient flatter Hérode, qu'ils redoutaient, car la foule flatte davantage ceux dont elle craint la cruauté. Mais ce qui est intéressant, c'est de l'argument qu'il donnait au sujet du démon, qui était en même temps aussi un Hérode, qui craignait pour son pouvoir. Alors maintenant, donc, on avance. On a vu qu'il ne convenait pas que le Christ se manifestât sa divinité à tous, se manifestât à tous. On a vu qu'il convenait qu'il se manifestât à quelques-uns, que la Sainte Vierge et Saint Joseph étaient les premiers à avoir vu le Christ, mais que ce n'était pas suffisant, qu'il convenait qu'il y ait d'autres personnes. Alors maintenant, on va voir si ceux à qui la naissance du Christ a été manifestée ont été ou non bien choisis. L'argument d'autorité, Saint Jean chapitre 13, verset 18, le Christ a dit lui-même, je sais qui j'ai choisi. La mesure où il sait qu'il a choisi, c'est qu'il a bien fait. Alors maintenant, les arguments de convenance. Il s'est manifesté à toutes les conditions humaines, afin de marquer sans distinction d'homme, ni de femme, ni de juif, ni de gentil, ni de libre, ni d'esclave, qu'il venait apporter le salut du genre humain à tous. Les bergers étaient israélites. Les mages étaient des gentils, donc des païens. Ceux-là venaient de près, ceux-ci de loin. Les uns représentaient la science et la puissance, donc les rois mages. Les autres étaient simples et sans crédit, les bergers. Il s'est manifesté à des justes, à Siméon et à Anne, et à des pécheurs, aux mages, à des hommes et à des femmes, on le voit par Anne et Siméon. Il révélait de la sorte que personne n'est exclu du salut. Donc là encore, vous voyez, c'est très beau de voir l'harmonie du plan divin. Alors ensuite, il y a l'ordre qui a été suivi aussi. Remarquons par ailleurs que l'ange chargé de manifester la naissance du Christ n'alla pas vers les scribes ni vers les pharisiens, hommes perdus de corruption et dévorés d'envie. Il s'adressa à des gens simples, aux bergers, dont la vie retraçait celle des patriarches. Alors maintenant, le mode selon lequel le Christ s'est manifesté. Est-ce que le Christ devait se manifester sa naissance par lui-même ou par les autres? Si la foi par laquelle nous opérons notre salut consiste à confesser que le Christ est Dieu et homme, il ne fallait pas que son humanité fût rendue douteuse par l'éclat de sa divinité. Pour ce motif, il a dû à sa naissance se montrer faible comme les autres enfants, en même temps qu'il obligeait les créatures à rendre témoignage à sa puissance divine. Ainsi, ce n'est pas par lui-même qu'il devait manifester sa naissance. Donc le but de notre Seigneur, au moment de sa naissance, c'était de ne pas mettre en valeur par lui-même sa divinité, afin de ne pas mettre en doute son humanité. Et ensuite, dans les objections, on précise, il s'est d'abord révélé par les créatures pour se manifester ensuite par lui-même. Tel se tait, dit le sage, parce qu'il sait qu'il y a un temps pour parler. Donc il y a un temps pour tout. Par conséquent, ne faisant point de miracle dès les premières années de sa vie, il prouva sa sagesse. Alors maintenant, précision encore sur le mode par lequel le Christ s'est fait voir, s'est fait connaître aux bergers et puis aux mages, à savoir qu'il s'est fait connaître aux bergers par les anges, il s'est fait connaître aux mages par une étoile. Alors est-ce qu'il convenait que cette manifestation se fît par les anges et par une étoile? Argument d'autorité, les œuvres de Dieu sont parfaites, comme il est écrit dans le livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 4, un des livres de l'Ancien Testament. La manifestation de la naissance du Christ fut une œuvre divine, croyant qu'elle fut accomplie par les moyens les plus convenables. Et alors là aussi, il y a un développement assez intéressant pour justifier la présence des anges et la présence de l'étoile. Et pourquoi ce sont des anges qui sont apparus plutôt aux bergers, pourquoi plutôt une étoile aux mages? Et pourquoi aussi les justes qui l'ont vu, donc Siméon et Anne, eux n'ont eu besoin ni des anges ni d'une étoile, mais c'est par une lumière intérieure. Donc les arguments de convenance. Une manifestation doit toujours se faire par des signes connus d'avance. Les justes sont ordinairement éclairés par un mouvement intérieur de l'Esprit-Saint sans signes extérieurs. Mais il n'en est pas de même des hommes livrés à leur sens. Ainsi, tandis que Siméon et Anne apprirent la naissance du Christ par une inspiration secrète, parce qu'eux-mêmes étaient très spirituels, les Juifs et les Gentils, adonnés aux choses matérielles, en eurent connaissance par des apparitions sensibles. Donc, Siméon et Anne n'avaient pas besoin d'avoir le secours d'un ange, ni d'une étoile. Les Juifs étant accoutumés aux apparitions angéliques et les mages habitués à la contemplation des astres, il convenait que la naissance du Sauveur fût révélée aux bergers par des anges et aux mages par une étoile. Comme une telle naissance portait un caractère céleste et divin, elle fut manifestée aux uns et aux autres par des signes célestes. Si les anges, dit saint Augustin, habitent les cieux, les astres en sont l'ornement. Les astres et les anges furent chargés en cette occasion de raconter la gloire de Dieu. On pense également, saint Thomas pense également ici, que les mages ont été guidés par la prophétie de Balaam, prophétie de l'Ancien Testament qui avait dit « Une étoile s'élèvera de Jacob ». Donc c'est ce qui avait, leur a fait penser, donc, en voyant cette étoile mystérieuse, que c'était l'étoile qui avait été annoncée. Par ailleurs, ainsi que le dit saint Léon, « Outre la splendeur céleste, un rayon plus éclatant de la vérité vint éclairer leur cœur. Ce rayon n'était autre que l'illumination de la foi ». Donc l'étoile extérieure était aussi une image de l'étoile intérieure qui les guidait, qui les illuminait. Alors maintenant, la naissance du Christ a-t-elle été manifestée dans l'ordre convenable ? Alors, la naissance du Christ fut manifestée aux bergers la nuit même où elle eut lieu. Ensuite, plus tard, aux mages. Alors ici, c'est une question disputée, donc je ne vais pas trancher la question. Certains disent que l'apparition des mages a eu lieu 13 jours après la naissance. D'autres pensent que c'est 2 ans après. Alors, bon, je ne tranche pas. Je vous dis les deux opinions. Et le 40e jour, aux deux justes, Siméon et Anne. Si on suivait l'ordre chronologique qui est maintenu par la liturgie, donc on peut trouver donc une explication de cet ordre que donne saint Thomas. La raison de cet ordre, c'est que les bergers représentaient les apôtres et les autres juifs qui crurent au Christ, parmi lesquels il n'y avait ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Donc les premiers qui sont apparus, c'était les juifs, parce que le Seigneur, encore une fois, était venu d'abord pour les juifs. Les mages, ensuite, préfiguraient la foi des nations, donc les gentils qui allaient se convertir. Et enfin, les deux justes, qui des juifs, Siméon et Anne, et qui ont eu cette apparition donc plus tard, à savoir, cette lumière intérieure plus tard, à savoir au bout de 40 jours, eh bien, figurent la nation juive qui n'embrassera la foi que dans les derniers temps. Et voilà pourquoi le Christ leur fut manifesté dans le temple même des Juifs. Alors après, autre question qu'on peut se poser, c'est sur la nature de l'étoile qui est apparue aux anges. Est-ce que c'était une véritable étoile ? Est-ce que c'était une image ? Est-ce que c'était un esprit qui s'est transformé en étoile ? C'était une comète. Et bien là encore, c'est une question disputée. L'argument d'autorité, cependant, donc, de saint Augustin. Bon, on est d'accord pour dire que ce n'était pas donc une étoile connue, quoi, une étoile habituelle. Saint Augustin a dit « Cette étoile n'était pas du nombre de celles qui, depuis l'origine du monde, accomplissent sous la loi du Créateur leur course régulière dans les cieux. Elle était un astre nouveau qui manifestait le merveilleux enfantement de la Vierge. » Alors l'argument de convenance. En effet, cette étoile, ainsi que le prouve la position de la Perse, de l'Arabie, par rapport à la Judée, allait de l'est à l'ouest. Elle brillait en plein jour, paraissait et disparaissait tour à tour, s'arrêtait quand les mages devaient s'arrêter, et elle s'inclina vers la terre pour montrer distinctement la maison où était né l'enfant. Une telle marche n'est pas celle des étoiles. Elle dénonçait plutôt une puissance spirituelle rendue visible par un éclat extérieur ou un météore que la volonté divine faisait mouvoir à son gré. Donc il utilise les deux termes, puissance spirituelle ou météore, donc on ne tranche pas. Et enfin, dernier article de cette deuxième question sur la manifestation de l'enfant Dieu, le huitième article. Convenait-il que les mages vinssent adorer le Christ? Alors l'argument d'autorité, Isaïe prophétisant disait, les nations marcheront à votre lumière et les rois à la splendeur de votre naissance. Or, quiconque est guidé par la lumière divine n'est pas exposé à des démarches inconsidérées. Et puis alors, après l'argument de convenance, eh bien c'est justement que ces mages étaient une figure prophétique de tous les peuples qui devraient ensuite adorer notre Seigneur depuis les quatre coins du monde. De même donc que la foi et la piété des nations est préservée de toute erreur par l'inspiration de l'Esprit Saint, ainsi les mages, inspirés par ce même Esprit, vinrent sagement lui offrir leurs adorations à son berceau. Mais là encore, malgré tout, il y a quelques objections qui sont posées. Première objection, il semble que ce soit sans raison que les mages donc soient venus adorer et vénérer le Christ. Un roi n'a droit aux honneurs que de la part de ses propres sujets. Or, les mages n'appartenaient pas au royaume des Juifs. Étant donné qu'en voyant l'étoile, ils avaient compris que le roi des Juifs était né, ils n'avaient pas de motif pour venir l'adorer. On va adorer son propre roi, mais on ne va pas aller adorer ou honorer les rois étrangers. Il n'y a pas de motif, pas de raison. Réponse que fait saint Thomas. Ainsi que le fait observer saint Augustin dans un sermon de l'Épiphanie, de nombreux rois des Juifs étaient nés et avaient vu la mort sans que les mages et chercher à en adorer aucun. Ce n'est donc pas à un roi des Juifs ordinaire que ces étrangers, venus de loin et n'ayant aucun lien avec ce royaume, pensaient devoir témoigner un si grand honneur. Mais le roi dont ils avaient appris la naissance était tel qu'en l'adorant, ils ne doutaient absolument pas qu'ils ne trouvassent le salut selon Dieu. Donc c'est bien parce qu'ils avaient réalisé que notre Seigneur était Dieu, qu'ils sont venus l'adorer. Ensuite, deuxième objection, c'est une sottise d'annoncer à un roi qui est encore vivant, un roi étranger. Or, en Judée, régnait toujours Hérode. Les mages ont donc agi sottement en lui faisant part de la naissance d'un roi. C'était de la provocation que d'aller faire un petit tour voir le roi Hérode. Réponse. L'annonce des mages préfigurait la constance des nations qui confesseraient le Christ jusqu'à la mort. D'après saint Jean Chrysostome, en considérant le roi à venir, il ne craignait pas le roi présent. Ils n'avaient pas encore vu le Christ, que déjà ils étaient prêts à mourir pour lui. Donc ce passage par le roi Hérode montrait la résolution qu'ils avaient de donner leur vie pour le Christ et d'être prêts, s'il le fallait, à verser leur sang pour lui. Troisième objection, tout signe qui vient du ciel est plus certain que n'importe quelle indication humaine. Or, c'était sous la conduite d'un signe céleste que les mages étaient venus en Judée. Ils ont donc agi en insensés lorsque, requérant en plus de l'étoile qui les guidait, une indication humaine, ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Ils avaient une étoile qui leur montrait où est-ce qu'allait naître le roi des Juifs. Pourquoi en plus confirmer ce témoignage de l'étoile par celui des hommes ? Réponse. Dans le même sermon de l'Épiphanie, saint Augustin ajoute « L'étoile qui avait mené les mages jusqu'au lieu où l'enfant Dieu se trouvait avec sa mère vierge pouvait les conduire jusqu'à la cité même de Bethléem où était né le Christ. Cependant, elle se déroba jusqu'à ce que les Juifs eux-mêmes eussent rendu témoignage au sujet de la cité où devait naître le Christ. » Et ça, c'est vrai que c'est un des, à mon avis, des passages les plus frappants pour montrer l'aveuglement des Juifs. Le roi Hérode donne la réponse, par l'intermédiaire des scribes et des pharisiens, pour dire que le Christ doit naître à Bethléem, et les Juifs ne le reconnaissent pas. Donc ça montrait bien leur aveuglement. Donc ce détour qui a été fait a pour but de montrer l'aveuglement dans lequel étaient les Juifs en ne voulant pas reconnaître notre Seigneur. Le pape Saint Léon insiste sur la conséquence qui s'en est suivie. Confirmés par ce double témoignage, les mages mirent plus d'ardeur à chercher celui que dénonçait la clarté de l'étoile en même temps que l'autorité de la prophétie. C'est ainsi que les mages annoncent la naissance du Christ et en demandent le lieu qu'ils croient et cherchent comme pour symboliser ceux qui marchent par la foi et désirent la claire vision. Et alors ici, donc, saint Thomas nous dit, fait une comparaison pour montrer cet aveuglement des Juifs avec ce qui s'était produit du temps de Noé. Quant aux Juifs qui indiquèrent aux mages le lieu de la nativité du Christ, ils ressemblèrent aux ouvriers qui construisirent l'arche de Noé. Ceux-ci fournirent aux autres le moyen de se sauver, mais ils périrent eux-mêmes dans le déluge. Alors que ceux qui enquêtaient écoutèrent et s'en allèrent, ceux qui savaient parlèrent et demeurèrent semblables aux pierres miliaires, qui montre la voie, mais ne marche pas. Ce fut aussi par un dessein divin que les mages, au regard desquels l'étoile s'était dérobée, se rendirent tout naturellement à Jérusalem et cherchèrent dans la ville royale le roi nouveau. La naissance du Christ fut ainsi annoncée publiquement, d'abord à Jérusalem, selon la parole d'Isaïe, « De Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole du Seigneur. » La fameuse citation que j'avais lu tout à l'heure. Par ailleurs, l'empressement des mages qui venaient de loin condamnait aussi la paresse des Juifs qui se trouvaient tout près. Je ne me serais pas permis de dire une chose pareille si ce n'était pas saint Thomas qui l'aurait écrit. Quatrième et dernière objection, et nous allons terminer là. Enfin, l'offrande des présents et les marques d'adoration ne sont-elles pas le privilège des rois qui règnent déjà ? Or, le Christ n'avait point l'éclat de la dignité royale. C'est donc sans raison que les mages lui ont offert des présents et témoigné des honneurs royaux. Donc ici, c'est le symbolisme des présents offerts par les mages. Selon saint Jean Chrysostome, si les mages étaient venus chercher un roi de la terre, ils auraient été confondus, car ils eussent supporté sans raison la fatigue d'un si grand voyage. Aussi n'auraient-ils offert ni leurs adorations ni leurs présents. Mais cherchant le roi du ciel, quoiqu'ils n'eussent rien aperçu en lui de l'excellence royale, ils se contentèrent pourtant du témoignage de l'étoile et se mirent à l'adorer. C'est qu'en effet, s'ils voient un homme, ils reconnaissent un Dieu. et ils offrent des présents qui sont en harmonie avec la dignité du Christ. L'or, ils le livrent comme au grand roi. L'encens qui sert dans les sacrifices divins, ils le présentent comme à un dieu. La myrrhe dont on embaume les corps des défunts, ils l'offrent comme à celui qui doit mourir pour le salut des hommes. Saint Grégoire, qui expose ce symbolisme, en découvre un autre. Par là, nous apprenons à offrir au roi nouveau-né l'or, qui désigne la sagesse. Lorsque nous resplendissons en sa présence de la lumière de la sagesse, l'encens qui exprime la dévotion de la prière, quand nous exhalons devant Dieu la bonne odeur de nos prières empressées, et enfin la myrrhe, qui signifie aussi la mortification de la chair, lorsque nous mortifions par l'abstinence les vices de la chair. Donc voilà, nous avons déjà commencé, vous voyez, à méditer ce mystère de la crèche avant la fête de Noël. Cela nous aide à préparer avec plus d'ardeur cette belle fête de Noël. Et puis, donc au début janvier, nous continuerons cette étude par les épisodes qui sont justement fêtés aux alentours du début de l'année, donc du mois de janvier, en particulier la circoncision et puis le baptême du Christ. Et après, on commencera peut-être la vie publique. Et bien voilà, nous allons terminer par la prière. Ah pardon, il y a peut-être des questions. Madame Lucio. Oui. Gentil, c'est la gens. C'est ça, oui. Mais ça c'est dans un sens il y a des distinctions bien sûr qu'on peut faire, mais dans un certain sens pour les gens, je crois que les païens, c'est pas aujourd'hui le terme païen, un terme péjoratif. Païen, c'était paganus, c'était les gens de la campagne, c'est tout. Le terme païen, c'était les gens de la campagne, c'est tout. Oui, c'est ça. Justement, il peut bonnet. Donc ça n'a pas le même sens. Païen, ça n'a pas le même sens que celui qu'on utilise aujourd'hui. Mais si on les appelait païens, parce que justement, c'est les gens de la campagne, c'est pour ça qu'on les appelait païens. Ben, c'est sûr, mais le nom est venu de là, en tout cas. Et puis sinon, gentil, c'est vient des nations, tout simplement, c'est le terme. Gens, c'est des nations. Bon, oui. Oui, mais c'est pas une partie du Christ qui serait au ciel et une partie dans sa dévotion. Il est tout entier dans sa dévotion. Au moment de la naissance, justement, c'est tout entier la personne du Verbe qui est. Non, il sait. C'est pas qu'il n'est pas coupé en deux, il est tout entier. C'est ça. C'est le mystère, ça. Hein? C'est le mystère du bon Dieu. Hein? Ah si, il peut être présent. Mais d'abord, il était toujours présent au ciel, ça c'est sûr. Quand il était sur la terre, le Christ était présent au ciel. Parce qu'il parle du Fils de Dieu qui est au ciel. Mais ça nous dépasse, hein. L'avantage de la théologie, c'est qu'on comprend beaucoup de choses. Mais l'inconvénient, c'est qu'après, il ne faut pas non plus vouloir trop comprendre. Oui, oui. C'est ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne s'était pas coupé en deux. Bien.